intervenez au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux, sur Twitter, par l'appli France Inter. On a beaucoup de messages et la majorité concerne la situation des migrants, pas seulement des migrants de Calais. Yves, par exemple, nous appelle de Lyon. Bonjour Yves.
Oui, bonjour. Voilà, moi je m'étonne que la France, donc je voulais poser une question à Monsieur le Ministre, je m'étonne que la France, qui, aux dernières nouvelles, est encore un État souverain, doive régler ce problème-là de ces malheureux migrants, ces malheureux réfugiés, qui veulent aller en Grande-Bretagne. Il me semble que ça doit quand même être la Grande-Bretagne qui les prenne en charge, et non pas les communes de France, et non pas l'État français, et non pas les associations françaises. Et il y a une question subsidiaire, c'est comment se fait-il que la France, État souverain aux dernières nouvelles, laisse construire un mur de la honte autour de cette fameuse jungle de Calais en plein territoire français. Enfin, imaginez que votre voisin s'installe là dans votre cour et puis il veut construire un mur là parce que finalement ça l'arrange bien. Enfin, ce sont des choses là qui paraissent complètement absurdes et qui se laissent faire et puis c'est commenté comme ça là, parmi d'autres nouvelles. Moi, ça me paraît totalement absurde. En plus, la Grande-Bretagne ne fait pas partie des accords de Schengen et vient de quitter l'Union européenne. Alors quand même, il me semble que ça devrait être à la Grande-Bretagne de prendre en charge les réfugiés.
Merci Yves. Bernard Cazeneuve.
Plusieurs éléments de réponse. D'abord, si le contexte est celui-ci, c'est parce qu'il y a des accords qui ont été signés entre la France et la Grande-Bretagne par un de mes illustres prédécesseurs qui s'appelle Nicolas Sarkozy au début des années 2000. Et ces accords ont été passés après qu'on a démantelé Sangatte et ils ont placé la frontière entre la France et la Grande-Bretagne en France.
Vous ne les avez jamais remis en cause,
non,
ou ces accords du Touquet,
Bernard? Je pense qu'il ne faut pas les remettre en cause, parce que si nous envoyons aujourd'hui le signal au réseau de passeurs que nous démantelons, nous avons démantelé cette année plus de 20% de réseaux de passeurs de plus que l'an dernier, que la direction s'est calée pour passer en Grande-Bretagne, demain ce n'est pas 7000 migrants que nous aurons à Calais, c'est des dizaines de milliers compte tenu de ce qu'est la situation migratoire en Europe. Donc dire que on peut régler le problème migratoire à Calais en disant que la frontière est devenue totalement ouverte désormais, c'est créer les conditions de trafic supplémentaire pour les passeurs et d'un afflux massif de migrants à Calais et d'un désastre humanitaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé avec les Britanniques de faire en sorte qu'ils prennent des migrants à Calais, notamment les mineurs isolés, je leur demande d'en prendre davantage. Et dans les discussions qui sont en cours actuellement, et je me rendrai à Londres la semaine prochaine, nous faisons en sorte, pour répondre à la préoccupation de l'auditeur, que nous partagions davantage l'accueil des migrants entre la France et la Grande-Bretagne. Nous démantelons ensemble les réseaux de passeurs. Il n'y a pas de mur autour du Grand Calais, ce n'est pas vrai, j'invite l'auditeur à s'y rendre. Il n'y a pas de murs qui ont été construits, il n'y en aura pas. Il y a simplement des infrastructures de sécurisation de la frontière qui ont été mises en place dans le tunnel sur le port et des renforcements de sécurité sur la rocade, financé par des Anglais, réalisés sous maîtrise d'ouvrage française. Et ce que nous voulons faire, c'est créer les conditions de l'accueil de ceux qui relèvent de l'asile en France dans le cadre de ces discussions.
Mais dont l'intention première était bien de s'installer en Grande-Bretagne et pas de rester en France. Non, d'où l'incompréhension de plusieurs auditeurs.
Il y a ceux qui veulent passer en Grande-Bretagne et nous occupons avec les Britanniques de faire en sorte, ce n'était pas dans les accords du Touquet, nous les avons complétés, de ce point de vue-là modifiés, qu'il y ait davantage de partage de l'effort entre la France et la Grande-Bretagne. Et la France aura mis près de 100 millions d'euros pour accompagner nos actions et aura pris des mineurs isolés. Et ils doivent en prendre davantage et nous devons davantage partager le fardeau, notamment dans le cadre du démantèlement de la jungle. C'est l'objet des discussions en cours, c'est ce que nous faisons. Et répartir dignement les demandeurs d'asile dans des CADA, non pas dans des mini-Calais, au terme d'un dialogue approfondi avec les élus locaux. Je tiens aussi à profiter de la question qui m'est posée pour dire que toute la polémique sur il n'y a pas de discussion avec les élus locaux, ça se fait dans leur dos, est faux. Nous avons repéré des lieux et nous allons engager la plus grande concertation avec les élus locaux pour que cela se passe dans de bonnes conditions.
On a justement un témoignage là-dessus, Olivier, qui nous appelle de Forges-les-Bains. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Cohen, bonjour Monsieur Cazeneuve.
Bonjour.
Alors voilà, moi j'habite à côté d'une ville, donc Forges-les-Bains, qui a 2000 habitants. Et au mois d'août, la mairie de Forges-les-Bains a appris qu'elle allait faire l'objet d'un accueil de 200 migrants, que des hommes de 4 à 54 ans, et il n'y a eu aucune concertation. Et quand je dis aucune concertation, je pèse mes mots. Du coup, je dis pas je suis pour ou contre, c'est pas la question, mais voilà, moi je vous garantis qu'il n'y a eu aucune concertation avec les élus locaux, ça a été imposé à la mairie de Forges-les-Bains. Et aujourd'hui, bah, toutes les réunions publiques, ça part en catastrophe, puisque les gens se sentent, voilà, pas concernés. Donc, moi, je suis pas d'accord avec ce que vous dites. C'est pas vrai. Il n'y a pas de concertation avec les élus locaux.
Oui. Bernard Cazeneuve. Il y a une discussion avec la maire de Forges-les-Bains qui a pris ses responsabilités. Il y a une réunion publique qui s'est mal passée. Cette réunion publique avait d'ailleurs fait l'objet d'une opération organisée d'entrisme par des élus du Front National. La préfète et la maire étaient présentes. Et il y a eu depuis, sous l'autorité de la préfète à ma demande, de nombreuses réunions de concertation, notamment avec les parents d'élèves de l'école qui jouxte le lieu, de manière à ce que toutes les garanties soient données, toutes les dispositions soient prises. Je veux aussi préciser que lorsque nous mettons en place des centres d'accueil et d'orientation, c'est pour une durée de 3-4 mois jusqu'à l'entrée définitive des personnes qui sont accueillies dans des bâtiments durs, gérés par des associations, dans le dispositif national d'asile. Donc ce que nous mettons en place, ce sont des dispositifs transitoires, dans l'attente de l'entrée de ceux qui relèvent du statut de réfugié dans le dispositif de l'asile. Et je vous rappelle qu'il y a eu 6000 personnes accueillies dans des centres d'accueil et d'orientation, 161 exactement en France depuis le mois d'octobre, et que cela n'a fait l'objet d'aucune tension parce que ça a été géré en liaison étroite avec les associations, en liaison étroite avec les collectivités. J'en ai visité plusieurs en présence des maires, et cela s'est fait dans un contexte où les structures d'accueil l'ont été à l'échelle humaine pour éviter des concentrations où la précarité
s'ajoute
à la
précarité. Thomas Legrand.
Il y a peut-être une incompréhension. La concertation, elle vient une fois que vous avez décidé du lieu. La concertation, elle ne peut pas être, vous allez nous le confirmer, sur le lieu. Peut-être que notre auditeur considérait que vous auriez dû concerter la population et les élus sur le choix du lieu.
Il y a plusieurs dispositions qui sont prises. D'abord, il y a des élus eux-mêmes qui, parce qu'ils ont conscience de la situation, parce qu'ils ont des convictions, parce qu'ils ont une certaine idée de ce que doit être le discours et l'action et l'attitude de la France.
Il y en a
face
beaucoup,
à...
il y en a assez.
Oui, il y en a. Et quand nous sommes retrouvés, il y a de cela quelques mois, à la Maison de la Chimie, avec les élus pour assurer l'accueil des migrants, il y en avait de nombreux et beaucoup se sont mobilisés. Donc il y a des élus qui eux-mêmes proposent des solutions. Et là, nous discutons avec eux des meilleures conditions pour le mettre en œuvre. Et je veux dire aussi que l'État assure 100% du financement de cet accueil, ce qui est bien normal. Il y a parfois des lieux que nous identifions, qui n'ont pas été proposés par les élus, dont nous examinons la faisabilité avant que d'en parler aux élus. Voilà. Et une fois que nous en parlons aux élus, nous voyons s'il y a des situations de résistance ou des difficultés ou des problèmes spécifiques qui se posent, et nous essayons avec le plus grand pragmatisme de dégager les solutions les plus équilibrées, les plus humaines. Mais je veux dire aux auditeurs de France Inter que nous sommes confrontés, pour des raisons qui tiennent au désordre du monde, Bernard Guetta en parlait tout à l'heure pour ce qui concerne la Syrie, à une crise migratoire exceptionnelle, la plus importante que nous ayons connue depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'entends certains élus de droite dire « ce sont les migrants de M. Cazeneuve ou les migrants de M. Hollande », ce sont des propos qui ne sont pas dignes dans le contexte. Il y a une crise migratoire internationale. Quel que soit le gouvernement qui sera en situation de responsabilité, demain, il devra l'affronter. Et face à cette crise, il y a un discours clair à tenir. Ceux qui viennent et qui sont migrants économiques et qui sont en situation irrégulière doivent être reconduits. Dans le cadre du contrôle aux frontières, nous procédons à leur empêchement d'entrer en France en engageant leur réadmission dès la frontière. Nous devons démanteler les réseaux de passeurs. Le travail de la police est formidable sur ce sujet. Ce sont 25% de passeurs supplémentaires que nous avons interpellés au cours des deux dernières années. C'est un travail considérable de la police de l'air et des frontières et des services qui sont sous ma responsabilité. Troisièmement, nous devons réserver l'accueil le plus digne à ceux qui relèvent de l'asile. Et nous devons le faire dans des conditions où l'État s'organise pour être à la hauteur. Je veux rappeler qu'alors que le nombre de demandeurs d'asile est passé en France entre 2007 et 2012, c'est-à-dire que lorsque Nicolas Sarkozy était au pouvoir, de 35 000 à 65 000, il y a eu seulement 2 000 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile de créer. Nous en créons plus de 20 000. Il n'y a eu aucun moyen supplémentaire accordé à l'OFPRA et à l'OFI, qui sont les administrations en charge de la gestion des demandeurs d'asile et des étrangers en France. Nous aurons créé plusieurs centaines de postes. Donc à tous ceux qui aujourd'hui convoquent les instincts plutôt que de parler à la raison des Français, qui créent les conditions de l'affrontement et de la division plutôt que de créer les conditions de la solution dans le rassemblement, dans l'apaisement, qui n'ont aucune leçon à donner compte tenu de ce qu'est leur bilan en la matière.
Alors, on a des questions politiques aussi qui arrivent. Thomas Legrand.
Oui, est-ce que vous avez le temps de vous intéresser à la politique, à la campagne, à la primaire ?
Je consacre tout mon temps au sujet dont je viens de vous parler. Et ils occupent 150% de mon temps. Et puis, comme vous l'avez remarqué, il y a deux catégorie, en réalité, d'homme politique. Bon, ma passion pour l'entomologie m'a conduit à les regarder longtemps et à les observer beaucoup. Ceux qui se pensent indispensables constituent, pour reprendre une expression d'Audiard concernant les poissons non volants, la majorité du genre, et ceux qui pensent pouvoir être utiles. J'essaie d'appartenir à la seconde catégorie et je ne suis pour cette raison candidat à rien d'autre qu'à essayer de bien faire mon travail, dont vous avez remarqué qu'il n'est pas le plus simple qu'il est donné à faire à un ministre dans la République.
Et vous trouvez que les indispensables occupent beaucoup de place aujourd'hui dans le débat public, ceux qui se croient indispensables, pour reprendre votre formule, Bernard Cazeneuve?
Ben, ils passent beaucoup de temps à se regarder eux-mêmes.
Vous avez des noms où on doit soutenir?
J'ai une liste très abondante et la durée de votre émission ne me permettrait pas de les grainer totalement. Et comme je ne voudrais oublier personne, je me permettrais de ne pas faire.
Et ils sont assez nombreux à gauche, vous avez remarqué aussi.
Ah ben, il y en a pour toutes les familles.
Certains sont
et
des
ceux
anciens...
qui sont à gauche, je les vois de plus près que les autres. Ben donc oui, je les connais mieux.
Ben oui, ce sont des anciens collègues à vous pour un certain nombre d'entre
pour
eux.
Pour certains d'entre eux, absolument.
Vous soutenez la candidature de François Hollande?
Totalement.
Donc il est candidat?
Je la soutiens dès lors qu'il sera candidat, et comme je la soutiens avant qu'il ne le soit, j'appelle sa candidature de mes voeux.
Bernard Cazeneuve, vous restez
avec
nous.
Je le fais d'ailleurs pour des raisons qui tiennent à l'engagement qui a été le sien, et puis aussi au fait que, étant totalement démodé, je crois beaucoup aux vertus de la fidélité en politique. C'est pour moi une vertu cardinale, qui ne se négocie pas.
C'est plus de la fidélité que la conviction ?
Mais la fidélité va avec la conviction lorsque l'on est fidèle à des gens dont on croit à l'action par conviction.
Bernard Cazeneuve, vous restez avec nous, on va accueillir Augustin Trapenard et puis retrouver, attention, Nicole Ferroni.
Maman, tu m'emmènes pas à l'école ?
Déjà ? Mais si on reste en vacances, le temps de remplir la paperasse pour le dégât des eaux du salon.
Bah, c'est la rentrée quand même.
La rentrée, ça va, il y en a une tous les ans. Tiens, si tu arrives à déchiffrer cette déclaration de sinistre, tu auras gagné au moins 3 ans sur ton programme scolaire. C'est bon ça ?
Nous aimerions tous obtenir une solution concrète dès le premier appel. Avec l'assurance auto et habitation Alliance, un conseiller vous propose une solution dès le premier appel. Et en ce moment, jusqu'à 2 mois gratuits selon les contrats pour toute souscription faite avant le 31 décembre 2016. Voir conditions sur alliance.fr. Alliance, avec vous de A à Z.
Pour 139 euros par mois, ne dites plus jamais.
On est arrivé. Tu descends chérie, je vais chercher une place.
Smart for Two. Garez-vous enfin, là où vous allez.
Smart for Two, 45 kilowatts pur à partir de 139 euros par mois. Offre LLD 48 mois, 40 000 km, sans apport, sans assurance, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 septembre 2016. Détails sur smart.com.
Smart. 8h54 sur Inter. Bonjour Augustin Trapenard.
Salut Patrick.
Vous avez une question pour notre invité?
Oui, bonjour Bernard Cazeneuve.
Bonjour.
Je vous ai écouté avec attention ce matin, avec la précision, la prise de hauteur qu'on vous connaît, le calme aussi, sur la question du terrorisme notamment.
Jusqu'à présent, votre question me va très bien.
Non, mais je me rappelais dans le même temps, c'est drôle, hein, je me rappelais dans le même temps cette phrase sans doute un peu malheureuse de Manuel Valls après les attentats de novembre 2015 qui disait, en pointant du doigt le monde de la recherche, expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Est-ce que vous la partagez, cette analyse du Premier ministre qu'il a réitéré? Les intellectuels, les historiens, les sociologues, les chercheurs, Bernard Cazeneuve, ils servent à rien dans ce débat.
D'abord, je profite de votre question pour vous dire que je trouve que le ministère de l'Intérieur s'est beaucoup trop coupé du monde de la recherche de l'université au cours des 10 dernières années. Et j'ai décidé de créer les conditions d'une réouverture du ministère à ceux qui, dans de multiples disciplines, réfléchissent, mettent en perspective, parce que, y compris le travail de nos services de police et de renseignement, a besoin d'être éclairé davantage par ceux qui analysent. On a mis en place un comité prospectif, je le lancerai le 10 octobre prochain, il rassemblera un très grand nombre d'universitaires et de chercheurs, ainsi qu'un comité des études, parce que je veux que le ministère soit capable de financer des thèses. Je pense qu'il faut toujours chercher à comprendre. Mais ça ne veut pas dire que tout ce que l'on cherche à comprendre est nécessairement excusable. Et on peut chercher à comprendre le terrorisme, bien entendu, et il faut pour cela s'ouvrir davantage au monde de la recherche et de l'université, mais il faut commencer par le condamner, compte tenu de l'abjection qu'il représente, et ensuite mieux le combattre en le comprenant. Mais je pense que ce qu'a voulu dire Manuel Valls, et que je partage totalement, c'est que rien ne peut justifier ce qui est une abomination. Et toute la force de la condamnation doit s'exprimer. Et il n'y a pas d'antinomie entre la fermeté dont on doit faire montre face à des actes qui n'ont pas leur place dans la République et la nécessité de les comprendre pour mieux les combattre.
Boomerang dans 10 minutes, Augustin.
Oh, avec une invitée qui va vous passionner. Hein. D'abord, Bernard Cazeneuve, Patrick Cohen, parce que vous avez dansé des slows enflammés sur la Boom 1 et la Boom 2. Et aussi parce qu'elle joue dans un film assez intéressant qui s'appelle La Tolarde. Sophie Marceau revient.
Dreams
elle est chez
are
nous.
My reality.
Elle est fiou-fiou. Et vous aussi, Bernard Cazeneuve.
Non, mais ça vous prouve que quand même...
Ah bah tout à fait. Bah, moi, j'en ai jamais films. Douté de votre côté rock'n'roll. Sophie Marceau, in extenso, dans Boomerang, évidemment.
Voilà, la boum par le ministre de l'Intérieur. Merci Augustin Trapnard, à tout à l'heure.